Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 29 septembre 2016. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Anne Albertson pour commencer les titres.
Washington a adopté hier des sanctions ciblées contre deux chefs militaires de la République démocratique du Congo.
Au Congo-Brazzaville, grève depuis bientôt un mois à l'université Marielle Ngouabi.
Au Gabon, le président Ali Bongo a chargé hier son nouveau Premier ministre de former un gouvernement d'ouverture.
Le Congrès américain passe outre au veto du président Obama sur une loi autorisant les proches de victimes du 11 septembre à poursuivre l'Arabie Saoudite.
Les États-Unis menacent maintenant de geler leur coopération avec la Russie sur la Syrie.
OPEP, accord historique pour une réduction de la production. Ne manquez pas notre segment quotidien sur la présidentielle américaine, sans oublier notre page sport, ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
L'administration Obama a donc adopté hier des sanctions financières contre deux chefs militaires de la République démocratique du Congo. Des précisions avec John Lyndon.
Le major général Gabriel Amissi Kumba, commandant des forces armées du pays, ainsi que le général John Numbi, ancien chef de la police nationale, ont été placés sur la liste noire du Trésor américain. Leurs avoirs éventuels aux États-Unis seront gelés et il est interdit à tout ressortissant américain de réaliser des transactions avec ces individus, indique John Smith, directeur en exercice de l'Agence du Trésor. Ces mesures sont annoncées alors que la RDC vient de connaître une nouvelle flambée de violence. Le général Amissi Kumba est accusé d'avoir commandé des unités des FARDC dans la répression de manifestations politiques. Washington cite aussi l'usage de forces excessives et d'armes létales pendant des manifestations, particulièrement en janvier 2015. Pour sa part, le général John Numbi est accusé d'avoir usé d'intimidations violentes en mars dernier lors d'élections pour s'assurer la victoire de candidats affiliés à la coalition du président Kabila.
Au Congo-Brazzaville, à l'université Marielle Ngouabi, la grève continue depuis bientôt un mois. Les enseignants, étudiants et autres agents revendiquent l'amélioration de leurs conditions de travail. Éric Manirakiza.
Didier Galembaye, secrétaire général adjoint du syndicat des enseignants du supérieur, a assuré que la grève sera maintenue jusqu'à satisfaction totale de leurs revendications. Le mouvement a été déclenché le 3 septembre. L'État n'a pas versé une subvention pour le deuxième trimestre 2016 de 900 millions de francs CFA, un manquement déploré par les enseignants. Les étudiants réclament le paiement de 6 mois de bourse. La grève paralyse 11 établissements, dont instituts, facultés et écoles de l'université Marielle Ngouabi. Les autorités congolaises affirment que le pays subit de plein fouet la baisse du prix du pétrole, dont le pays est le quatrième producteur en Afrique subsaharienne. Pour Bruno Jean-Richard Itoua, ministre de l'Enseignement supérieur, ce n'est un secret pour personne. La principale ressource est vendue à peu près de la moitié de son prix il y a 2 ans. Selon lui, cela modifie forcément les engagements, équilibre et pose une nouvelle difficulté.
Coup de théâtre à Alger. À la surprise générale, les pays de l'OPEP sont parvenus hier soir à un accord historique pour réduire leur production d'or noir afin de soutenir des prix durablement affaiblis par une offre excédentaire. Au terme d'une réunion de près de 6 heures et de plusieurs semaines de tractations, l'OPEP a annoncé avoir décidé de ramener sa production à un niveau de 32,5 à 33 millions de barils par jour contre 33,47 en août. Selon l'Agence internationale de l'énergie, il s'agit de la plus grosse réduction de production depuis celle décidée après la chute des cours durant la crise de 2008.
Le président gabonais Ali Bongo, investi mardi pour un deuxième mandat, a chargé Emmanuel Essose Gonde de former le prochain gouvernement. Un décret lu mercredi à la télévision publique indique que Gonde, qui occupait jusque-là le poste de ministre des Affaires étrangères, a été chargé de composer un gouvernement d'ouverture, signe que des membres de l'opposition pourraient être invités à le rejoindre.
Au Mali, le groupe armé pro-gouvernemental, le Gatia, a accusé hier l'ambassadeur américain de partialité. Il reproche à Paul Formsby d'avoir pressé Bamako de rompre tout lien avec le Gatia, engagé depuis plusieurs mois dans des combats meurtriers avec l'ex-rébellion. Le Gatia, groupe d'autodéfense Touareg, Imgad et alliés, a dénoncé, je cite, « son attitude partisane au profit de la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad ». Selon un communiqué diffusé sur le compte Twitter de son secrétaire général Fahad Ag Al-Mahmoud, le Gatia a également nié être une milice supplétive.
En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara présentera le projet de nouvelle constitution au cours d'une déclaration solennelle au Parlement le 5 octobre. Claire Morin-Gibourg.
C'est le porte-parole du gouvernement, Bruno Conné, qui s'est chargé de faire l'annonce. Le 5 octobre prochain, le président Ouattara présentera lui-même la nouvelle constitution. Bruno Conné s'est refusé à donner des détails, mais a confirmé les grandes lignes déjà connues. La création d'un poste de vice-président et d'un Sénat, la constitutionnalisation de la Chambre des rois et chefs traditionnels et l'extension des compétences du Conseil économique et social. Évoquant la crise des années 2000, le porte-parole du gouvernement a précisé que cette nouvelle constitution se voulait plus consensuelle, plus fédératrice, pour permettre de, je le cite, « rassembler tous les Ivoiriens ». Fin juin, 23 partis d'opposition, dont le Front populaire ivoirien, ont adopté une déclaration commune refusant le référendum sur cette nouvelle constitution, critiquant une dérive monarchique du pouvoir. La rédaction d'une nouvelle constitution était l'une des promesses de campagne d'Alassane Ouattara, réélu en octobre 2015.
En Somalie, les États-Unis ont lancé un raid aérien qualifié d'autodéfense contre des combattants d'Al-Shabaab, tuant au moins 9 de ses militants islamistes. Le Pentagone a annoncé ce raid hier, confirmant partiellement des informations du gouvernement somalien. Mais selon les officiels somaliens, ce raid sur la ville de Galkayo, dans le centre du pays, a coûté la vie à 22 soldats somaliens et en a blessé 16 autres. Interrogé à ce sujet, un responsable américain a répondu : nous ne pensons certainement pas que ces allégations soient vraies.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Congrès américain a rejeté hier un veto de Barack Obama sur une loi autorisant les proches de victimes du 11 septembre à poursuivre l'Arabie Saoudite. Il s'agit là d'un cinglant camouflet infligé au président qui s'était opposé au texte en invoquant la sécurité nationale. Précision de Jean-Roger Bion.
C'est la première fois en 8 années au pouvoir que M. Obama voit son veto. Il en a fait usage à 12 reprises, repoussé par les parlementaires qui doivent, pour cela, rassembler 2/3 des votes. C'est une erreur, a réagi M. Barack Obama, dénonçant sur CNN un vote politique de parlementaires qui jouent pour beaucoup leur élection le 8 novembre. Le Sénat, dans un premier temps, a voté à 97 voix pour rejeter le veto contre une seule voix soutenant l'initiative de Barack Obama, celle de Harry Reid, chef de la minorité démocrate à la Chambre haute. Les élus de la Chambre des représentants se sont ensuite prononcés à 348 voix pour rejeter le veto et 77 voix soutenant le chef de l'État. Barack Obama juge que ce test affaiblirait le principe d'immunité qui protège les États et leurs diplomates de poursuites judiciaires et risquerait, par un effet boomerang, d'exposer les États-Unis à des poursuites devant divers tribunaux à travers le monde.
Les États-Unis ont menacé mercredi de geler leur coopération avec Moscou sur la Syrie et le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a qualifié de crime de guerre les bombardements des deux principaux hôpitaux de la partie rebelle d'Alep. Pour les ONG et des habitants, ces bombardements, mercredi à l'aube, sont des attaques délibérées du régime syrien et de son allié russe et visent à annihiler les infrastructures encore en service dans les secteurs assiégés qui manquent déjà de tout et vivent sous une pluie de bombes.
Le président Barack Obama a donné hier son feu vert à l'envoi de quelques 600 soldats supplémentaires en Irak pour la reprise de Mossoul, la bataille du dernier grand bastion du groupe État islamique approche. Les djihadistes, faut le dire, ont perdu beaucoup de terrain dans ce pays.
Le Premier ministre australien Malcolm Turnbull a dit aujourd'hui qu'il va presser la Russie pour qu'elle appuie des efforts du Conseil de sécurité de l'ONU pour poursuivre ceux qui sont responsables de la destruction d'un avion de ligne malaisien qui s'est écrasé en juillet 2014 dans l'est de l'Ukraine. Selon les conclusions d'enquêteurs internationaux publiées hier, l'avion a été abattu par des missiles sol-air qui avaient été acheminés de Russie avant d'être tirés. La Russie a aussitôt qualifié de biaisés et de politiquement motivés ses conclusions.
Une majorité d'Américains estime que Hillary Clinton a remporté le débat qui l'opposait lundi soir à Donald Trump, mais sa prestation ne semble pas avoir augmenté les intentions de vote en sa faveur pour l'élection présidentielle du 8 novembre, montre un sondage Reuters Ipsos publié mercredi. Selon cette enquête en ligne effectuée mardi auprès de plus de 2000 personnes, 56% des Américains ont trouvé la candidate démocrate meilleure que son adversaire républicain, alors que 26% des personnes interrogées ont le sentiment inverse.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
La Tunisie est en état d'urgence économique avec une croissance atone et des finances publiques en grande difficulté, a prévenu le ministre de l'Investissement Fadel Abdelkefi à l'approche d'une conférence internationale des investisseurs à Tunis. Il a évoqué un déficit public abyssal à 6,5% et une dette publique de 63% du PIB qui a plus que doublé en 5 ans. Il a relevé aussi que la croissance en 2016 serait inférieure à 1,4%, loin des 2,5% escomptés. La croissance mondiale reste trop faible et trop inégalitaire et souffrirait d'un retour au protectionnisme, une recette économique du passé qui a déjà échoué, a affirmé la patronne du Fonds monétaire international, Christine Lagarde. Elle estime que restreindre le commerce et limiter l'ouverture économique conduira forcément à aggraver les perspectives de croissance mondiale pour les citoyens les plus vulnérables. Si nous tournons le dos au commerce, nous étoufferons un des principaux moteurs de la croissance au moment même où l'économie mondiale a besoin de chaque nouvelle positive, a assuré Madame Lagarde à Chicago.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Suite de la Ligue des Champions.
Le choc de la soirée, les Espagnols de l'Atlético Madrid, finalistes l'an dernier, se sont imposés 1-0 contre les Allemands du Bayern Munich à domicile pour la deuxième journée de la Ligue des Champions. Aidé par le poteau, le Belge Yannick Carrasco a inscrit l'unique but de la rencontre à la 35e minute d'une frappe du gauche à l'entrée de la surface. Les Madrilènes qui ont raté un pénalty par le Français Antoine Griezmann à la 83e minute. A noter également la victoire 3-1 à Sofia du Paris Saint-Germain grâce à un doublé d'Edinson Cavani, 2-0 pour Arsenal grâce à un doublé de Walcott contre le FC Bâle, Naples qui domine Benfica 4-2, Beşiktaş match nul 1-1 à domicile contre le Dynamo Kiev, match nul spectaculaire à Glasgow, le Celtic contre Manchester City, 3-0. Le Borussia Mönchengladbach battu 2-1 à domicile par le FC Barcelone. Enfin match nul 2-2 contre Rostov face au PSV Eindhoven.
L'Europa League ce jeudi.
Défait d'entrée de jeu, le Manchester United de José Mourinho à l'occasion de se racheter en recevant les Ukrainiens de Zorya Lugansk. Une réaction d'orgueil est également attendue de la part des clubs italiens. On parle notamment de l'Inter Milan de Franck de Boer, crédité d'un bon début en championnat 3e. Eh bien, l'Inter doit se reprendre à Prague face au Sparta. L'AS Rome qui doit rebondir à domicile contre les Roumains d'Astra Giurgiu. Et puis la Fiorentina qui reçoit Karabag, tandis que le PAOK va à Liberec. Autre rencontre, Feyenoord dans le bouillonnant stade de Fenerbahçe.
Scandale au Kenya.
Eh oui, le chef de mission de l'équipe olympique du Kenya aux Jeux Olympiques de Rio, Stephen Arap Soy, a été officiellement accusé par la justice d'avoir volé 250 000 dollars aux autorités. C'est une affaire de plus dans le flot de scandales qui a accompagné le Kenya au Brésil. Arap Soy, ex-secrétaire adjoint du comité olympique kenyan, dissous par les autorités à la mi-août, a nié les faits lors d'une audience qui s'est tenue dans un tribunal de Nairobi.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La décentralisation au Bénin connaît des heures difficiles. L'actualité est régulièrement marquée par des menaces de destitution de certains maires, dont plusieurs ont déjà subi le vote de défiance des mêmes conseillers qui les avaient portés à la tête des municipalités. Pour leur part, les organisations de la société civile appellent à la non-banalisation du développement local. Précision de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adondé.
13 ans déjà, mais le processus de la décentralisation au Bénin balbutie et ne progresse nullement. Plusieurs maires ont perdu leur fauteuil pour abus de confiance, détournement de fonds, gestion opaque et bien de subterfuges contenus dans la loi qui régit la décentralisation dans le pays. Le Social Watch, à travers son président, s'est d'ailleurs prononcé sur la question en appelant les acteurs à accompagner au mieux le processus de la décentralisation au lieu de le détruire par voies et moyens.
Social Watch Bénin attire l'attention de tous pour que la réaction soit sans appel pour arrêter la démarche. Si tant est que les destitutions actuelles ne sont que des effets de représailles post-élection que les nouvelles autorités attisent dans leur seul but de satisfaire des intérêts partisans. La décentralisation est bien une gestion politique, mais elle ne doit pas être banalisée juste pour des questions de guéguerre politique.
Sur la question, le juriste Serge Prince-Agoudian y voit l'instabilité de la loi, mais aussi la politisation à outre. Nos communes.
Le comportement du Béninois est toujours le même. Lorsque vous lui donnez la possibilité d'exercer un pouvoir, il l'exercera jusqu'au bout. Et c'est ça la difficulté. Le contexte d'élection des maires ne favorise pas la stabilité de ces élus-là. Voyez-vous, ils fabriquent des majorités plus ou moins instables pour se faire élire. Ensuite, il y a des cas où c'est l'autorité politique qui impose celui qui doit prendre. C'est la conséquence de ce que nous-mêmes nous avons fait et je crains que ça n'embrasse toutes les communes du Bénin.
Souleymane Yerima est un spécialiste des questions de développement local et de décentralisation. Il pense, lui, que le balbutiement de la décentralisation est dû au fait que le Béninois a encore du mal à internaliser le processus pourtant vieux de 13 ans.
Le processus est aujourd'hui en difficulté parce que nous avons copié l'ensemble des tares qu'on avait au niveau national. La corruption, la mauvaise gestion, le clientélisme, les fonctionnaires trop corrompus, trop puissants. On a copié tout ça à la base, alors que nous sommes dans une nouvelle dynamique où on devait avoir des administrations de services qui s'occupent des besoins des populations au lieu d'être des administrations qui vraiment martyrisent les citoyens, qui vraiment se nourrissent aux dépens des populations pour lesquelles elles sont là.
Cette instabilité observée dans la gestion des communes est un frein certain au développement local, puisque rare selon les partenaires techniques et financiers qui voudront y investir. Et c'est en cela que les réformes tant promises par le chef de l'État sont attendues pour sonner la fin de cette pagaille qui tend à se généraliser. De Cotonou, Ginette Fleur Adondé pour VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les Israéliens se sont réveillés mercredi en deuil. Vous le savez, l'ancien Premier ministre Shimon Peres est mort à l'âge de 93 ans. Il sera enterré ce vendredi et le président Barack Obama sera sur place pour lui rendre hommage. Figure emblématique de l'État d'Israël, Shimon Peres aura marqué l'histoire de son pays, ce qui lui avait valu une reconnaissance internationale, mais aussi la colère de beaucoup de Palestiniens. Salwa Jafari.
Le nom de Shimon Peres sera toujours gravé dans les annales de la lutte de notre peuple pour l'indépendance, comme l'un des grands chefs de l'État d'Israël, comme l'un des pères fondateurs qui ont créé l'État d'Israël. Que sa mémoire soit toujours au cœur de notre nation.
C'était quelques mots prononcés par le chef du gouvernement israélien Benjamin Netanyahou. Shimon Peres était l'un des derniers hommes politiques issus de la génération des fondateurs d'Israël.
Nous n'avons pas beaucoup de rivières, nous n'avons pas beaucoup d'eau. Et c'est extrêmement essentiel pour le développement du pays. Ce n'est pas la guerre qui nous inquiète, mais les faux évidés de guerre.
Shimon Peres est le dernier des trois lauréats du prix Nobel de la paix décerné pour les accords d'Oslo à s'éteindre. Ces accords signés en 1993 à Washington, puis en 1995 à Taba en Égypte, visaient un règlement global et durable du conflit entre Israéliens et Palestiniens et avaient suscité un immense espoir à travers le monde. Ces accords sur l'autonomie sont le premier texte ratifié par les deux camps qui s'affrontent depuis 1948, date de la création d'Israël. Les Palestiniens l'appellent Nakba, la catastrophe en arabe. Beaucoup de Palestiniens ne l'ont pas oublié. Saber Farraj, un résident de Ramallah.
Le monde regarde d'un œil et en gardant l'autre fermé. Comment un homme de paix peut-il tuer des enfants? Comment peut-il obtenir la puissance nucléaire? Parce que c'était lui qui a obtenu les armes nucléaires pour Israël.
Le Hamas est du même avis. Du côté de l'autorité palestinienne, on a choisi de garder le silence.
Oui, je pense qu'il faut trouver une solution démocratique, libérale et responsable pour les deux peuples, pour le peuple arabe et pour le peuple israélien.
Pour beaucoup, le nom de Shimon Peres restera synonyme de paix. Plusieurs chefs d'État ainsi que le pape ont présenté leurs condoléances au peuple israélien. Le 8 juin 2014, un mois avant la fin de son mandat, Shimon Peres s'est rendu au Vatican avec le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, le pape François. Ils ont planté ensemble un olivier, symbole de la paix.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
La question des migrants et des réfugiés dans le monde a été discutée à la 71e Assemblée générale de l'ONU à New York. Cette réflexion a abouti à l'adoption de la déclaration de New York portant sur la protection des droits de ces personnes. Qu'en est-il des problèmes environnementaux qui forcent nombre d'entre elles vers l'exil? Timothée Donangmaï s'est entretenu à New York avec Ibrahim Chao, directeur exécutif adjoint du programme des Nations Unies pour l'environnement.
Bien sûr, il y a toujours des migrations dans le monde, mais il y a des migrations qui sont forcées parce que la dégradation de l'environnement ou les changements climatiques entraînent de nouvelles formes de migration. Donc non, nous pensons que les questions environnementales n'ont pas été suffisamment prises en compte, mais que beaucoup de gouvernements aujourd'hui reconnaissent que c'est une question fondamentale. Et nous sommes satisfaits du fait que dans beaucoup de régions du monde, les responsables gouvernementaux viennent nous voir pour nous demander une assistance technique de manière à pouvoir comprendre les causes et les relations qu'il y a entre la migration et la gestion des ressources naturelles.
De ce point de vue, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui en Afrique pour mieux maîtriser ces phénomènes?
Alors, il faut surtout restaurer les milieux naturels dans les zones dégradées, en particulier dans les zones sèches. Vous savez que la bande sahélienne a connu ces dernières 30 dernières années beaucoup de conflits, beaucoup de rébellions, je mets entre guillemets, parce qu'il s'agit essentiellement des conflits d'accès aux ressources naturelles. La rareté des ressources conduit à des conflits. Au Darfour, nos études ont montré que les gens se battent pour avoir l'accès aux points d'eau et même pour avoir accès au bois de chauffe. Et donc, les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont devenus de plus en plus récurrents et de plus en plus violents, de plus en plus sanguinaires, parce que la croissance démographique s'accompagne d'une raréfaction des ressources et donc on arrive à des points d'inflexion où le conflit devient malheureusement inévitable. Et donc il y a des choses qui sont faites aujourd'hui par les gouvernements et par la société civile, mais pas suffisamment. Nos études ont montré qu'au cours des 60 dernières années, jusqu'à 40% des conflits inter-États ont un lien avec l'accès aux ressources naturelles. Malheureusement, les accords de paix n'ont tenu pendant la même période n'ont tenu compte des questions environnementales qu'au mieux dans un tiers des cas. Et donc, il se trouve que si on ne tient pas compte de la cause profonde du conflit et qu'on signe un accord, malheureusement, ces accords sont souvent remis en cause. Donc, nous attirons l'attention des leaders sur le fait que quand il y a une cause profonde, qu'il vaut mieux chercher à l'identifier de manière à traiter le mal à la racine. Donc, oui, il y a du travail qui est fait, mais pas suffisamment. Et nous attirons l'attention, encore une fois, des leaders africains et ailleurs, hein, c'est pas un problème purement africain, c'est ce qu'on voit également en Amérique latine, c'est ce qu'on voit surtout au Moyen-Orient, avec la récurrence des conflits qui sont là-bas, que la relation, elle est là, mais elle n'est pas suffisamment bien reconnue.
Ibrahim Tchaou, directeur exécutif adjoint du programme des Nations Unies pour l'environnement. Présidentielle américaine 2016, la candidate démocrate Hillary Clinton et son rival républicain Donald Trump battaient campagne hier dans le New Hampshire et dans le Wisconsin respectivement. Aux côtés de Bernie Sanders, Mme Clinton a tenté de rallier à sa cause les jeunes électeurs. Quant au milliardaire Trump, il était de nouveau appelé hier à éclaircir le mystère autour de ses impôts. Jacques Aristide.
Oui, la question est revenue sur le tapis. Donald Trump a-t-il réussi à ne pas payer d'impôts? L'interrogation a rebondi après sa curieuse réponse lors du débat présidentiel, alors qu'il refuse toujours de rendre en public ses déclarations de revenus. Lors du débat télévisé, sa rivale démocrate émettait plusieurs hypothèses sur son refus. Peut-être n'est-il pas aussi riche qu'il le dit, peut-être n'est-il pas aussi généreux qu'il le dit, ou peut-être ne veut-il pas que les Américains sachent qu'il n'a rien payé en impôts fédéraux. Et la réponse du candidat républicain, cela prouve que je suis intelligent. Les démocrates ont immédiatement exploité sa réplique, d'autant que depuis des mois, ils lui réclament de rendre publique sa déclaration de revenus, une tradition respectée depuis 40 ans par tous les candidats des grands partis à l'élection présidentielle. En campagne pour Mme Clinton à Philadelphie, le vice-président Joe Biden a pris Trump au mot. Dites ça aux concierges ici qui paient des impôts. Dites ça à vos parents qui s'épuisent pour vous envoyer ici et payent des impôts. Cela me met très en colère, s'est-il indigné. Le magnat de l'immobilier affirme attendre à la fin d'un audit fiscal pour rendre public ses impôts, mais l'IRS, le service des impôts américain, a indiqué que rien ne l'empêchait de le faire.
Et Jacques, du côté de la campagne d'Hillary Clinton, on se réjouit d'un nouveau soutien républicain.
Oui, Idrissa, la candidate démocrate Clinton devait recevoir l'appui de l'ancien sénateur républicain John Warner de la Virginie, d'après l'agence Associated Press. Une sortie publique de M. Warner aux côtés de Tim Kaine, le colistier de Mme Clinton et actuel sénateur de la Virginie, était prévue hier dans une banlieue de Washington pour mettre en exergue cette nouvelle approbation d'un membre du Parti républicain dont le candidat à la Maison-Blanche n'est nul autre que Donald Trump. Justement, dans le but de démontrer un large soutien parmi les démocrates, mais aussi d'un certain appui des républicains, la campagne de Mme Clinton a dépêché hier la première dame Michelle Obama en Pennsylvanie, un état que Mme Clinton espère remporter pour empêcher Donald Trump d'atteindre le seuil de 270 grands électeurs nécessaires pour l'emporter. Très populaire parmi les démocrates, Michelle Obama est considérée comme un atout très important pour la campagne de Mme Clinton. Hillary Clinton a été rejointe hier par Bernie Sanders, son ex-rival lors des primaires. Ils se sont retrouvés sur le même podium après leur premier rassemblement ensemble en juillet dernier, avec pour but d'afficher l'unité du Parti démocrate. C'était aussi et surtout l'occasion pour Mme Clinton de convaincre les jeunes électeurs en particulier, car depuis la sortie des primaires, plusieurs sondages indiquent qu'un nombre inquiétant de jeunes, dont beaucoup soutenaient la campagne de Bernie Sanders, sont réticents à l'idée de voter Hillary Clinton. D'ailleurs, même le président Barack Obama est de nouveau venu à la rescousse, craignant que ses propres partisans demeurent indécis par rapport à Mme Clinton. Le locataire de la Maison-Blanche s'est dit frustré de voir que les gens n'accordent toujours pas le crédit qu'elle mérite à son ancienne secrétaire d'État. On a suggéré que c'était parce qu'elle est une femme et qu'aux États-Unis, on n'a jamais eu de femme présidente. Mon héritage est également en jeu dans cette élection. Tout le travail que nous avons fait au cours des 8 dernières années sera sur le bulletin de vote, affirme le président Obama, implorant ses partisans d'aller se faire enregistrer et de voter Hillary Clinton.
Dans Washington Forum ce jeudi, le point sur la situation politique au Gabon, la Cour constitutionnelle a validé la victoire d'Ali Bongo, réinvesti à la tête du pays pour un deuxième septennat consécutif. Son rival Jean Ping conteste toujours cette élection, se considérant comme l'élu. Comment le président gabonais pourra-t-il réconcilier un pays divisé par des violences post-électorales? Quel avenir pour l'opposition? La communauté internationale aurait-elle pu s'impliquer davantage? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Retrouvez-moi dans Washington Forum. C'est ce jeudi à 19h temps universel.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoulia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.